voix nue. Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Hervé Di Rosa. Ce soir, les années figuration libre.
Bonsoir Hervé Di Rosa. Merci de nous accueillir à nouveau. Nous sommes installés dans cet atelier que vous occupez dans le nord de Paris depuis une quinzaine d'années, avec une très belle lumière zénitale. Hier, vous nous parliez de votre enfance à Sète, dans le quartier Haut, un lieu d'immigration italienne, napolitaine même. Nous avons évoqué vos premières années, heureuses mais souvent dures, dans une famille très modeste. Puis, à l'adolescence, quelques rencontres décisives vous ont initié aux comics américains, au rock, puis au punk. La musique et la bande dessinée deviennent pour vous un mode de vie et vous conduisent vers la figuration libre et vers votre vie à New York, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais auparavant, après une année de préparation à l'école des Beaux-Arts de Sète, vous arrivez à Paris en 1978. Vous avez réussi le concours d'entrée à l'école des Arts décoratifs. Pour vous, c'était un territoire radicalement inconnu. En 1978, Hervé Di Rosa, qu'est-ce qui caractérisait les arts décoratifs par rapport à l'école des Beaux-Arts ?
Ah oui, un territoire inconnu, même un territoire hostile, on dirait. Hein. Je me souviens, ma pauvre mère qui était venue à Paris me trouver une chambre de bonne, qui est des, d'où je voyais la tour Eiffel, c'était avenue Franco-Russe, et au 6e, sa sœur, etc., chez une grande bourgeoise qui jouait ça une fortune et qui méprisait les gens. Enfin, c'était horrible. Cette arrivée à Paris, pour moi, a été terrible. J'étais dans une position de vengeance tout azimut. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas quitté l'accent, parce qu'au début j'avais pensé quitter l'accent, mais à un moment donné je me suis dit non, il faut se battre avec ça. J'étais vraiment il y avait une revendication. La peinture, c'était pas que peindre, quoi. C'est pas que dessiner, c'était pas que peindre, c'était vraiment revendiquer autre chose. Moi déjà, j'avais passé mon bac, surtout parce que pour être boursier, il me fallait le bac. À l'époque, il fallait pas encore le baccalauréat pour les arts déco, mais pour être boursier, il le fallait. Donc j'étais obligé de le. Je l'ai passé un peu par obligation. Ça s'est bien passé, mais et je me retrouve au milieu de que de fils de bourge, on dirait. Bon, mes enfants sont comme ça certainement aujourd'hui. Alors le monde est terrible parce qu'on se retourne tout le temps les choses qu'on a détestées, on se les retrouve, et qui tous sortaient d'écoles privées de formation, genre Penningen, Camando, d'écoles parisiennes, etc. J'étais le seul boursier de toute la génération, là, de toute la promotion. Et franchement, je le sentais pas très bien. Le punk venait de mourir, hein, la new wave avait arrivé. J'avais fait un petit détour par la fièvre du samedi soir et le palace, un tout petit détour par ça. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'avais quand même, je connaissais Paris, hein, donc j'arrivais pas à Paris sans rien, puisque régulièrement j'y allais, tout petit, voir les films, aller dans les librairies, comme je l'expliquais, mais aussi très vite, j'allais à Paris voir des concerts, et c'est là, grâce à Daniel Vermeil, que j'ai rencontré Alain Pacadis, où j'ai rencontré Jacques Nau, en fait, dans des situations que je ne peux pas raconter aujourd'hui, qui tellement le sont underground, étrange, avec le recul, et assez destructeur. Enfin, je connaissais tout cet univers underground de Paris. Je commençais, entre guillemets, j'étais un peu branché. Hein. Je connaissais tout ça. Et pour moi, les arts déco, il faut dire que l'école des Beaux-Arts, les écoles des Beaux-Arts en général, et je le savais puisque mon camarade Robert Combas, lui, était aux Beaux-Arts de Montpellier. Et donc, lui, passait le diplôme aux Arts de Montpellier et m'a rejoint aux arts décoratifs en second cycle, en équivalence du Beaux-Arts. Et c'était, bon, alors, je suis désolé, aujourd'hui, je me lève tous les jours dans ma chambre à Lisbonne, j'ai un Claude Viala devant mes yeux. Mais à cette époque-là, pour moi, les Beaux-Arts, c'était que du bricolage, du support surface, des types qui faisaient des installations et des morceaux de branches avec une pierre. Enfin,
et qui ont choses, été aux Beaux-Arts de Montpellier. Et
qui étaient aux Beaux-Arts de Montpellier. Et les Beaux-Arts de Paris, c'était pareil à cette époque-là. Donc, c'était vraiment l'apprentissage du bricolage. Je ne supportais pas ça. Et c'est vrai que aux arts décoratifs, d'ailleurs, aujourd'hui aussi, puisque j'ai un fils qui est aux arts décoratifs aussi, aujourd'hui, il y a un matériel formidable. Ça, c'est ça que je savais, parce que moi, je voulais faire de l'animation, de la vidéo. C'est tout ce qui m'intéressait, c'était d'accéder à un matériel que je n'avais pas, parce que finalement, la peinture, je me suis aperçu très vite que la peinture, le dessin, c'est l'expression la plus démocratique. C'est celle que tout le monde comprend. Au-delà de la convention en morceaux de toile sur 4 morceaux de bois, pour quelqu'un d'Occident, pour un occidental, c'est une œuvre d'art. Et avec n'importe quoi, un morceau de drap, un morceau de carton et quelques peintures en bâtiment, c'est comme ça que je peignais au début. On arrive, c'est vraiment C'est vrai que l'appareil photo, la caméra de vidéo, alors on a peut-être un contact plus direct avec la réalité, tout ça, mais on a un instrument dont il faut apprendre le fonctionnement, qu'il faut acheter, qu'il faut emprunter, etc. Donc, les arts déco me passionnaient pour toute cette diversité de matériel, principalement.
Vous y faites des rencontres, notamment votre grand ami François Boiron.
Le meilleur ami de ma vie que je rencontre là, au premier cours. Alors moi, je m'attendais des cours de sciences humaines, etc. Bon, déjà, il y a beaucoup plus de cours de sciences humaines que de cours de dessin et de, et de peinture. Bon, et en plus, les cours de dessin, c'était des cours de graphisme, etc. Très rude, c'était la mode des trucs d'après-photo. Et il y a deux choses que j'ai toujours détestées. Ça a été les... Entre autres, ça a été les travaux d'après-photo. Je m'y suis mis plus tard, on en reparlera, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais une... C'est pour ça que j'ai jamais été attaché à la figuration narrative quand j'étais jeune, parce qu'il y avait tout ce côté de l'utilisation de la photo qui me bloquait réellement.
Qui est et là, ce mouvement qui vous a précédé.
Oui, voilà, qui précédé, mais qui ne m'intéressait pas du tout. Alors, qui aurait pu m'intéresser, parce qu'ils étaient quand même... c'était le contraire de la de support surface, hein, c'était l'autre versant, de la, le versant pop art de la France.
Alors que par support exemple, Héros.
Héros, voilà, Héros, Rancillac, Télémaque, etc. Je connaissais, mais il y a beaucoup de trucs d'après-photo qui me passionnaient pas. Et je ne me souviens pas de ce que je voulais dire.
Vous parliez de la rencontre avec François
voilà.
Boiron.
Et donc, il y en a un cours. Alors ça, je m'en souviendrai très bien. C'était un cours de, où il nous dit, mettez-vous deux par deux, on va faire des massages. Putain, je me dis, je viens à Paris aux Arts Déco pour faire des massages. J'étais, ouais, j'avais, à cette époque, j'ai dégoûté que Kratzberg. J'avais les cheveux moitié noirs, moitié bleus. J'étais en costume cravate avec la chemise rouge et la cravate noire, comme dans l'album Mad Machine de Kratzberg, etc. Je me dis, et bien sûr... Tout le monde se met deux par deux, et les deux couillons qui restent à la fin, c'est François Boiron, qui est devenu mon meilleur ami, et on sait l'artiste que c'est, et moi, et lui qui était un peu autiste, et moi qui était l'étranger, quoi, l'alien.
Vous êtes un peu rentré dans sa famille.
Voilà, et on s'est rencontrés là, et à partir de ce moment-là, on s'est massé la première fois, sans avoir aucune relation autre que ça. On s'est tellement rapproché que vraiment je suis rentré dans sa famille, j'ai été amoureux de sa sœur, j'ai été... très proche de sa maman, Annette Vademan, qui a été ma seconde mère à Paris. Vous voyez, j'avais 18 ans, j'allais manger chez elle, je ne savais pas où aller manger.
Son père était un grand cinéaste.
Voilà, son papa, Michel Boiron, il était déjà séparé de Annette, donc je l'ai rencontré aussi, qui était un énorme monsieur. C'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on a fait notre première exposition avec La Marche Vadel, aussi bizarrement soit-il, on pourra raconter l'histoire. Tout ça fait que, là, j'ai trouvé François, ça a été ma bouée un peu, mon attache. Et lui, le contraire de moi, il est très grand, très mince, il parle très peu. Même sa mère me disait qu'il était presque aux limites de l'autisme quand il était jeune. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est allé aux Arts Déco. Et tous les deux, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fonctionné de formidablement bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'après, je l'ai présenté à Combas, etc., etc.
Et qu'est né le mouvement de la figuration libre à partir de 1981. Parce que, au moment où vous êtes aux Arts Déco, vous avez plutôt envie de vous consacrer à l'imprimé. Vous rencontrez Wolinski, qui publie votre travail dans Charlie Mensuel, mais qui vous conseille plutôt de vous consacrer à l'art et de vous tourner vers le monde des galeries. Et c'est à ce moment-là que Ben vous invite, Robert Combas et vous, dans sa galerie à Nice, pour faire une exposition qui s'intitule « De ces toits à Nice ». Ben expose Robert Combas et Hervé Di Rosa. C'est le début de la figuration libre qu'il a nommée lui-même.
Voilà, c'est là, c'est cette exposition. Alors, c'est vrai, après, donc, Combas, lui, passe son diplôme des Beaux-Arts de Montpellier, me rejoint aux Arts Déco et à Paris. J'habitais déjà avec Louis Jam, le photographe avec qui j'avais commencé le travail photo et du film aussi. On avait l'ambition de faire des films qui n'ont jamais été finis, mais enfin, dont j'ai fait les décors, dont j'étais l'acteur principal. Enfin, il y avait toute une émulation comme ça. On habitait à partir de 80, on habite sa mère rue de Charonne, on habite tous ensemble avec Catherine Brendel, Robert Combas, Louis Jam, moi-même. Il y a vraiment une grande émulation. Il y a Ben qui fait cette exposition. En même temps, il y a l'exposition que La Marche Vadel organise, Finir en beauté, dont Hervé Perdriol était l'assistant, et Jeanne Deloisy, c'était tous les deux les assistants de La Marche Vadel. Donc, tout ce monde qu'on revoit après tout le temps. Et Ben fait cette exposition avec tous les deux, et fait un face-à-face, comme il avait l'habitude de faire, des espèces de grands happenings, performances, discussions, ou dans les discussions qui commencent à être un peu... je me rappelle que Noël Dola avait été un peu agressif. Il faut dire que moi aussi, j'étais très agressif à l'époque et que j'exagérais un petit peu. et que je détestais les mecs avec des grosses motos et des grosses voitures. Je pouvais pas m'empêcher de les insulter, etc. Alors qu'ils avaient tous des grosses motos et des grosses voitures. Et j'étais couillon parce que c'était le prototype même du collectionneur. J'étais quand même assez idiot à l'époque d'en vouloir à des gens comme ça qui après plus tard seraient des collectionneurs à moi. Voilà. Et donc, et c'est là où il invente le mot figuration libre. Je sais pas où c'est sorti. Et après, c'est vrai qu'on en a parlé à la Marche Madel, etc. Parce que la Marche Madel, lui.
La Marche Madel, qui était donc un grand critique d'art,
voilà,
déjà à ce moment-là.
Très grand critique d'art, écrivain, et qui avait fait cette exposition de Finir en Moto. En fait, il voulait quitter, il vendait son grand loft rue Fondary, il voulait faire une grande exposition qu'avec des jeunes, de jeunes artistes qui n'avaient jamais exposé. Et donc, il avait rencontré c'est là où il avait rencontré le père de Boiron pour vendre son loft, et le père de Boiron lui avait dit, ah, mais mon fils aussi, etc., etc. Et donc, François nous avait dit à Robert et à moi de nous présenter avec lui, et il nous avait pris. Et dans cette exposition, et c'est là où il nous a présenté Rémi Blanchard, qui était un peu son protégé, dont il était le professeur aux Beaux-Arts de Rennes, dont il avait fini les concours, je pense, Rémi Blanchard. Et donc, la Marche Madel l'hébergeait, il nous le présente. Et dans l'exposition, il y avait aussi Jean-Charles Blais, il y avait aussi Jean-Michel Alberola. Vous voyez, il y avait quand même... C'était des jeunes artistes, on avait tous 20 ans. Alberola était le plus âgé, il devait avoir 23 ans, nous on avait 20 ans. Mais la Marche Madel n'a jamais été, c'était pas son cup of tea. Je pense qu'il nous a exposé parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui venait et qui était intéressant, parce que c'était un type une remarquable intelligence, un visionnaire. Hein. Mais c'était pas son truc. Lui, c'était Gazirovski, c'était des choses comme ça. Mais il nous a donné notre chance. Et c'est vrai que son assistant, Hervé Perdriol, qui est devenu critique après, lui a récupéré la chance et l'a transformé avec To End in Believe in Glory. Voilà, la suite de Finir en Beauté, qui se passe rue des Blamanteaux et qui est l'année d'après, 82. Donc les choses s'installent là. Alors là, on va pouvoir parler, on peut en parler des heures, de comment ça s'est fait, de comment ça se fonctionne. Le problème, c'est que c'est un groupe finalement d'amis, plus ou moins, qui se réunissent sous une appellation donnée par un autre. Donc c'est quelque chose de très difficilement viable, surtout sans aucun appareil critique finalement. Parce que c'était un anti-mouvement, donc un anti-appareil critique. Donc même Perdriol, il n'a pas réussi à construire un appareil critique parce que lui-même était contre l'appareil critique dans ce cas-là. Et finalement, il a été gérant de ma société, on le verra plus tard, et à l'ouverture de ma boutique, parce qu'il me disait que le travail de critique d'art dans ce cas-là ne pouvait pas se faire comme d'habitude.
Au même moment, au début des années 80, émerge sur la scène internationale un certain nombre de mouvements internationaux. La bad painting américaine, Kissaring ou Basquiat, la trans-avant-garde italienne, les nouveaux fauves allemands, par exemple Baslitz ou Kippenberger. Que vous voyez à la galerie Gilles Epsilage Salomon, avec qui vous avez travaillé entre 84 et 93, qui montrait Baslitz, Simmendorf ou Penck, on les dit proches de vous, mais eux étaient loin d'être punk. Comment avez-vous perçu ces mouvements à cette époque-là, tous les quatre, dans ce mouvement qui en était un, plus ou moins, la figuration libre?
Alors, je mettrai Basquiat et Kissaring en dehors, parce qu'ils n'étaient pas là dans les années 70, ils font à peu près au même moment que nous, même. Je dirais même quelques mois après. Mais par contre, les Italiens, qui Kouki, Clément, Francesco Clemente, les Allemands, Dumoulin, Freyot, comme Walter Dahn ou Dugoupil, ou ceux de Berlin, comme Salomé, Castelli, etc., Immendorf, Baselitz, Penck, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés à la Galerie Lage Salomon, puisque c'était la première à importer les artistes allemands. En fait, nous ont beaucoup servi. En fait, moi, je me sentais pas très proche du tout, parce que c'était quand même... À cette époque-là, c'était plutôt des gens comme des artistes comme Gérard Garouste, qui était dans cette figuration dite savante. Alors, on a dit figuration libre, figuration savante, enfin, etc. On a essayé d'inventer des sous-genres à ça. Mais finalement, c'était un désir commun dans le monde entier d'un retour à faire des images. Et il y en a qui les faisaient avec une culture populaire et d'autres avec une culture plus savante. Et c'est vrai que Francesco Clemente en réfère beaucoup plus, comme Enzo Cucchi, à l'Antiquité, à la Renaissance, ils font des références très savantes, ou les Allemands à leur propre histoire de l'art de la fin du 19e, début du 20e. Alors que moi, c'était directement, j'étais uniquement plongé dans les cultures populaires, quoi. Et la bande dessinée, c'était pas... Dans mon travail, une vision de la bande dessinée, comme Héros peut, ou Liechtenstein peuvent donner à voir des morceaux de bande dessinée, mais c'était d'essayer, à l'intérieur même de la matrice de comment on filme bande dessinée, de construire une œuvre peinte, mais de cette même manière-là. Ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et puis surtout, ça a été la découverte. Alors, c'est vrai, comme comme moi, c'était aux Beaux-Arts de Montpellier, on avait des renseignements supplémentaires. Et puis moi, aux Beaux-Arts de Sète, le premier truc qui a été formidable, c'était cette bibliothèque qui me paraissait... En fait, c'était une armoire, mais il y avait les numéros d'Art Presse, de l'Art Vivant, il y avait des livres. Et c'est là où j'ai découvert du Buffet, là où j'ai découvert l'Art Brut. Et quand j'arrive aux Arts Déco à Paris, alors là, j'ai cette gigantesque bibliothèque où je lis L'Homme du commun à l'ouvrage du Buffet. Et là, ça m'assoit pour un bon moment, que ce soit mes histoires de punk, etc. Ça m'a donné une vision tout de suite très grande et très précise de ce que je devais faire.
Ce goût de la marge défendu par Jean Dubuffet.
Oui, parce qu'en fait, cette marge dans laquelle j'étais moi, et que j'arrivais pas à définir, parce que quand on parlait de musique populaire, c'est-à-dire de rock'n'roll, je préfère dire musique populaire, mais si on parlait de rock'n'roll ou de bande dessinée Art Presse en 1981, je peux vous dire qu'on n'était pas super bien reçus, hein, vraiment. Alors,
c'est pas comme aujourd'hui.
C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'écoute pas Patti Smith, on peut même pas faire même Patti Smith sur la couverture Art Presse. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que j'ai été, que nous avons été des passeurs aussi. Hein, des passeurs. Hein. Et c'est pour ça qu'après, on parlera de l'art modeste et tout ça, parce que c'est très important aussi, cette culture populaire, c'est-à-dire Spirou, et en même temps qu'Hélène Sanger. La vraie liaison, finalement.
Aller vers votre public, c'était quelque chose de très important. Et avec la figuration libre, les membres de la figuration libre, vous avez même fait des toiles en direct, par exemple, à la gare Montparnasse ou au moment des 24 heures du Mans.
Voilà, ou au Grand Rex aussi. On avait fait même tous ensemble au Grand Rex. Ben oui, parce qu'il y avait un côté... bon. Il faut dire que moi, comme j'étais frustré de ne pas être musicien, et que j'avais fait quelques essais au théâtre avec Farid Chopel, mais c'était moyennement passé, je me suis aperçu que c'était pas trop mon truc. J'avais cette frustration d'avoir un contact vraiment direct, comme un concert, quoi. Et c'est vrai que ça se faisait pas du tout à cette époque-là, cette envie. Alors, on n'avait pas de spray ni rien, parce que là, on me dit, vous venez du graffiti, mais en 1980, le graffiti n'existait pas du tout en France. Il y avait peut-être Blaigue Le Rat qui faisait des pochoirs, des gens, ou Ernest Pignon, mais le graffitier avait des bombes de peinture sur des métros, ça. Je l'ai découvert quand j'arrive à New York en 82, ça n'existait pas du tout en France. Donc c'était nous, avec des pinceaux et des couleurs, d'essayer d'avoir le contact, faire comme un concert.
À la gare Montparnasse, c'est Jean-François Bizot qui faisait Actuel, qui vous a invité.
Tout à fait. Il avait demandé à plusieurs artistes, parce qu'Actuel avait fait pas mal d'articles sur moi, sur nous, etc. Voilà. Et il nous avait demandé donc moi, j'avais choisi la gare Montparnasse. Donc, c'était un grand panneau de 4x6, là, les grands panneaux, qui était surélevé. Ils avaient mis un échafaudage, parce qu'il était quand même à 4 mètres du sol. Il devait être à 4 mètres du sol. Et voilà. Et donc, j'avais passé la journée à peindre là, avec les gens. Et ça, c'était formidable. Ça, aujourd'hui, j'arrive plus à le faire. Donc, j'ai transformé cette idée aujourd'hui, avec Pascal Comolade, le musicien. Aujourd'hui, je transforme cette idée en peignant directement sur un support beaucoup plus petit, mais par contre projeté. J'essaie en ce moment de faire de l'animation en direct, en fait. Et ça vient de cette époque-là. C'est vrai que je pouvais faire des peintures très rapidement. Aujourd'hui, je mets trop longtemps. Et je me suis aperçu aussi que c'était un peu ennuyant de regarder quelqu'un peindre. À part que moi, quand j'étais jeune, j'adorais regarder. Oui, à la télévision, il y avait des émissions. Maintenant, ça me revient. Avec Mathieu, qui peignait habillé en samouraï. Ça et Salvador Dali pour le chocolat, je crois que c'est les deux trucs qui m'ont... Je sais pas, c'est pas les deux choses qui m'ont poussé à être artiste. Dali et Mathieu, c'est quand même un drôle de mélange.
C'est surprenant. Alors, en 1982, vous faites un premier voyage à New York. C'est la première fois que vous prenez l'avion pour le vernissage d'une exposition à laquelle vous participez chez Holly Solomon, une galeriste extrêmement prestigieuse. Comment avait-elle repéré votre travail ?
Oh, ben, les choses sont, des fois, se passent de manière très particulière. En fait, j'avais pas été choisi par cette exposition. C'est pour ça que j'étais pas très ami avec Otto Hahn pendant un moment, parce qu'il avait choisi Blanchard et Combat, c'est pas Boirot et moi. Il avait fait une scission, parce qu'il y avait beaucoup d'autres artistes, etc. Et par contre, mon galeriste, j'ai eu ma première exposition personnelle en 81, je l'ai faite à la galerie Rick Swart, qui était une galerie à Amsterdam. C'est elle qui avait fait les premières expositions de Sol Lewitt, en 65, je crois, en Europe. C'est elle qui avait fait les premières expositions du Moulin Frayeux, de Goupil, de Walter Dan. Enfin, une dame qui était déjà très âgée en 81 et qui m'avait donné ma première exposition. Et grâce, c'était à Chantal Crouzel. Ah. Un truc incroyable.
Chantal Crouzel qui est une grande galeriste.
Mais très conceptuelle, enfin, qui s'occupe pas du tout du genre du travail que je fais. Elle était venue nous voir. On habitait ensemble avec elle. Elle était venue nous voir, comme Bass et moi, à Paris. Et nous avait amené à Amsterdam pour nous présenter cette dame. Parce qu'elle nous disait que, elle, ça l'intéressait pas trop, notre travail, mais que ça intéresserait quelqu'un. Et grâce à Sterike Swart, qui était très proche d'Oli Salomon, Oli Salomon a envoyé son premier assistant, qui à l'époque, je me rappelle, c'était Raman Schlemmer. C'était le petit-fils d'Oscar Schlemmer. Je me souviens très bien, je ne l'ai pas revu depuis 40 ans. Il est venu à notre atelier. On avait un atelier en commun, Boiron et moi, à Saint-Michel. Il est venu nous voir et nous dire, voilà, nous, on vous voit absolument dans l'exposition. Et donc, grâce à Oli Salomon, grâce aux Américains, encore une fois. Parce que moi, chaque fois que je suis aux États-Unis, c'était souvent grâce aux Américains. Et malheureusement, pas souvent grâce aux Français. Grâce aux Américains, Oli Salomon et son mari Horace, qui sont décédés aujourd'hui, qui étaient deux personnes, des personnages magnifiques. Je prends pour la première fois l'avion, je pars à New York, j'étais habillé tout en cuir. Et j'arrive dans... Alors là, c'était parce que... Parce que quand on me parle de Seth, des joutes et tout ça, ça m'intéressait pas du tout, c'était à cette époque-là. Encore au moins la nature, l'écologie, mais je ne supportais pas. Moi, j'avais envie que d'avion, j'avais envie que d'être dans des grandes villes. Ça me rappelait tous les dimanches après-midi, mes parents devaient aller à Ballarugue-le-Vieux, c'était le village d'où était originairement ma maman, qui est à 3 km de Seth. Et alors aujourd'hui, on dit, oh, c'est magnifique ce jardin, c'est formidable, le potager, tout fait maison, avec les canards pour la chasse. Mais je détestais ça, je ne supportais pas ça. J'avais qu'une envie, c'est d'être à Paris, d'être à New York. Et là, j'arrive à New York en vrai. Et je suis à une sublime galerie avec toute l'histoire du pop art qui est devant mes yeux. Hein. C'est ça qui est dingue. Et on commence à faire des fêtes. Et là, je rencontre deux personnes extraordinaires. Enfin, après plusieurs, mais Nicolas Moufarège, qui est un artiste libanais qui parle un français parfait, très, très chic, mais en même temps, pas très argenté, connaissant tout le monde. Je rencontre aussi René Ricard. Grand écrivain, c'est lui qui a écrit les premiers articles sur Jabel, sur Bascal dans Art Forum, etc. Donc, je passe des semaines avec lui, il m'entraîne, je pense qu'il devait être un peu amoureux de moi, à mon avis. J'étais jeune, je ne l'apercevais pas trop, mais. Et qui m'a mené, il me faisait le tour, j'allais chez Clémenté, chez Jabel, enfin, des trucs hallucinants pour moi, c'était comme si j'apprenais l'art. J'étais encore aux Arts Déco en 82, j'étais en troisième année. Et comme j'apprenais l'art en vrai, quoi. Et là, Nicolas Mouvarège me dit, tu sais, il y a quelqu'un qu'il faut absolument que tu rencontres, tu vois. Il va vraiment te plaire, etc. C'est un jeune artiste, il vient d'exposer chez... Et il m'amène chez Kissaring, qui avait, je crois, un petit atelier, je crois que c'était Green Street à l'époque. C'était en fait dans Soho, il avait un petit atelier. Il était encore assistant de Chafrasi, puisqu'il faisait les montages et tout ça. Ouais. C'est ça, c'était tout début 82. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kissaring Ring, qui après m'a présenté Kenny Scharf, et grâce à ça, je suis rentré à la galerie Tony Schiaffrasi, etc., etc., etc. Mais cette première arrivée à New York, ça a été vraiment pour moi quelque chose de vraiment important. C'était tous les films, j'étais dans cette légende. Bon, j'en suis revenu depuis, et j'en suis revenu, on en parlera, j'en suis revenu à travers l'Afrique, l'Asie, etc., mais j'en suis revenu bien fort. Mais ça a été très important de me remettre en accord avec tous les fantasmes que j'avais depuis que j'avais 10 ans. Hein.
Et grâce à une bourse de la Villa Médicis, vous avez posé votre valise et vous êtes finalement resté 2 ans.
Voilà.
Vous n'avez pas passé votre diplôme des arts déco.
Et non. J'ai pas un bon exemple, je ne devrais pas le dire.
Et à la place, vous avez fait votre première exposition personnelle chez Barbara Gladstone, voilà, à New York, qui était là encore une des plus grandes galeries de la ville.
Oui, c'est de Gates Eden, elle était encore opta, on n'était pas comme aujourd'hui, c'était... On n'était pas encore aux galeries gigantesques comme aujourd'hui. Hein. Ça, c'est l'excroissance du marché de l'art n'était pas. C'était déjà très différent dans France, déjà le marché de l'art. Je me rappelle à cette époque-là, c'est Schnabel, il faisait la première fois 1 million de dollars. Qu'un artiste vivant fasse 1 million de dollars, c'était le truc hallucinant. C'était en 82-83. Hein. Oui. Et alors aujourd'hui, ça, c'est la petite rigolade aujourd'hui. Hein. Aux États-Unis, on rigole avec 1 million de dollars. Là, c'était le truc incroyable. Et ce qui est formidable, oui. Donc j'ai eu grâce. J'ai eu le prix de la Villa Médicis, encore une fois l'État français quand même, qui, moi, surtout les ministères qui n'ont pas été très gentils avec moi, mais l'État a toujours, moi je suis un pur produit de la République française, sans les bourses, sans la SNCF, sans le prix de la Villa Médicis, sans tout ça, je ne serais pas moi, donc ça il faut toujours jamais l'oublier, enfin, moi j'essaye de toujours en parler à mes enfants de ça, qu'il ne faut pas oublier ça, eux ils n'en ont pas besoin parce que je suis là, mais moi j'en avais drôlement besoin, et ce prix, c'était d'ailleurs Anne-Patrick Poirier, c'était grâce à Anne-Patrick Poirier qui nous l'avait octroyé, que je remercie. Parce que,
qui était dans le jury, Anne et Patrick Poirier, voilà, qui sont deux artistes
français, c'est très important, qui étaient dans le jury, et qui nous, on les croise avec Warren, on revenait des Arts Déco, ils nous disent, vous savez, vous partez à New York bientôt. On lui dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et donc, c'est eux, grâce à eux qu'on a eu la main. Donc, on part avec François. François reste 6 mois, on avait une bourse. Donc, on avait un atelier formidable à Pièce One, qui aujourd'hui, c'est le MoMA Pièce One. À l'époque, c'était un petit peu Decati, mais c'était formidable, il y avait tous les artistes qui travaillaient là, enfin, c'était vraiment un rêve. Et on avait, trouver un appartement dans le West Side, c'était pas le West Village, c'était dans le sud, mais côté ouest, aujourd'hui qui est le quartier très branché, qui à l'époque était un quartier qui n'était pas extra, et aujourd'hui c'est le grand quartier des galeries. À l'époque c'était le il y avait des trucs de viande, des entrepôts, et donc voilà. Et après finalement François est rentré, et puis moi j'ai fait des allers-retours jusqu'en 86. C'est vrai que Nicolas Bouffarège à ce moment-là m'a beaucoup aidé. Pour l'exposition chez Barbara Blackstone, commercialement ne s'est pas très bien passé, et c'est pour ça que l'année d'après j'ai fait une exposition avec Tony Chafrasi, qui là a formidablement bien marché, et surtout j'avais tout le support critique de Nicolas Bouffarège et tout ça, j'avais un gros support critique, j'étais assez proche de Keith Haring. Tant qu'il y avait que Keith était là, avec Tony Chafrasi c'était travaillable. Quand Keith est mort, c'était plus possible de travailler avec Tony Chafrasi, c'était vraiment trop complexe. Quand il payait pas, j'avais qu'à appeler Keith Haring et tout de suite il appelait. Là, c'était des galeries américaines, et puis les gens ont commencé à mourir. Voilà, le truc américain, c'est fini comme ça aussi, à partir de 84, 85. Ils ont commencé à être malades. Il y a Nicolas Bouffarège, le premier. Ça a été le premier, un des premiers de notre bande à avoir été atteint du sida, parce qu'après, dans notre bande avec Keith Haring, il y avait Dan Friedman, il y avait Tseng Quenchi, le photographe, il y avait des gens formés, mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Kenny Scharf, lui, m'avait sous-loué son appartement dans l'East Village, et s'était marié avec une Brésilienne, il était parti au Brésil, voyant qu'à New York, c'était ce qui se passait. Et finalement, moi, j'ai décidé, c'était plutôt ma femme de l'époque, plutôt avoir envie de rentrer en France, et puis à 7, où mon fils est né en 86. Voilà, c'est là, l'aventure américaine se finit pas là, parce qu'après, j'ai beaucoup continué à travailler, surtout avec des galeries de la côte ouest. Mais là, le grand moment, c'était là, quoi.
Et donc, vous parliez à l'instant de votre retour en France. C'est aussi le moment de la dernière exposition de la figuration libre. En 84-85, une exposition qui s'appelle 5 sur 5, figuration libre France-USA, au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Les commissaires sont Otto Hahn et Hervé Perdriol. Est-ce que vous avez le sentiment que le mouvement s'est essoufflé, en quelque sorte? Est-ce que vous en avez souffert?
Il n'y a pas eu de mouvement, en fait. C'est pas essoufflé parce qu'il n'y en a pas eu. Parce que c'était, en fait, des individualités. Moi, j'ai cru toujours au collectif. Je suis un peu débile. J'ai toujours cru au collectif. D'abord, avec Bateau, avec Robert Combas et Catherine Brendel. Puis après, j'ai cru avec la figuration libre. Puis après, j'ai cru avec mon frère. À partir de 84, je travaillais avec mon frère jusqu'en 94. Il fait d'abord mes sculptures. Puis après, les nôtres. Enfin, c'est un peu complexe. Avec Louis Jam aussi, j'ai beaucoup travaillé. On a fait les premières photos, toutes les photos, tous les décors, etc. J'avais cette envie de cinéma de photos. Et le collectif, la figuration libre, il y avait, quand vous savez, vous êtes à l'intérieur d'un groupe, qu'il y en a qui disent que c'est le plus fort, le premier, etc., ça peut pas fonctionner. Donc, pour moi, ça n'a jamais fonctionné, parce que je pense que chacun a inventé. Il n'y a pas eu un inventeur de la figuration libre, comme des fois on serait tenté de le faire croire. Chacun a inventé son propre dessin, sa propre voix, sa propre ligne, chacun. Et puis ça s'est agrégé. Mais il n'y avait pas d'appareil critique, il n'y avait pas de lien. Il n'y avait qu'un lien organique entre les artistes. Il y avait mon amitié et mes origines sociales avec Combas, il y avait mon amitié forte avec Boiron, il y avait cette rencontre avec Blanchard. Il y avait mon frère, parce que c'était mon frère, et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y a pas d'appareil scientifique, il n'y a pas d'appareil critique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Hervé Perdriol a essayé de faire un appareil critique, et lui-même dit que c'est contre-productif de faire. C'est le dernier mouvement, et le premier et le dernier mouvement, en France et en Europe, je pense, du XXe siècle. Et c'est le dernier, puisque c'est un non-mouvement.
Alors ce chemin indépendant, Hervé Di Rosa, vous le reprendrez en France. Et cela, nous en parlerons demain soir en reprenant le fil de cette conversation.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Hervé Di Rosa. À voix nue. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Sébastien Huel, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. Avoinu s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.